Jules Verne, César Cascabel, deuxième partie, chapitre 8. Le pays des Yakouts. L'itinéraire primitif, tel qu'il devait être suivi depuis le détroit de Bering jusqu'à la frontière d'Europe, avait été nécessairement modifié par ce détour de la dérive et l'abordage aux archipels de la Nouvelle-Sibérie. Il ne fallait plus songer maintenant à traverser l'Asie russe dans sa partie méridionale. D'ailleurs, la belle saison ne tarderait pas à améliorer les conditions climatériques et il n'y aurait pas lieu d'hiverner dans quelques bourgades. On peut même dire que ces derniers événements s'était dénoué d'une façon aussi favorable que merveilleuse. À présent, ce qu'il s'agissait d'étudier, c'était la direction qu'il conviendrait de prendre pour atteindre par le plus court la frontière des monts Oural entre la Russie asiatique et la Russie d'Europe. C'est ce que comptait faire M. Serge avant de lever le campement qui venait d'être établi sur le littoral. Le temps était calme et clair. La durée du jour, en pleine période équinoxiale, dépassait 11 heures. Et s'accroissait encore de la clarté des crépuscules, très allongés sur les territoires coupés par le 70e parallèle. La petite caravane se composait actuellement de 10 personnes, depuis que Kirchhoff et Ortik en faisaient partie. Bien que la sympathie ne fût pas très étroite entre leurs compagnons et eux, les deux matelots russes étaient devenus les commensaux de la belle roulotte, et ils y prenaient leur repas à table commune, ils devaient même y coucher, tant que la température ne leur permettrait pas de passer la nuit dehors. En effet, la moyenne thermométrique se tenait encore à quelques degrés au-dessous de zéro, ce qu'il était facile de reconnaître puisque l'obligeant Tchouchouk avait rendu le thermomètre à son légitime propriétaire. Tout le territoire disparaissait à perte de vue, sous une immense nappe blanche que le soleil d'avril ne tarderait pas à dissoudre. Sur cette neige durcie, comme sur la plaine herbeuse des steppes, l'attelage de rennes suffirait aisément à traîner le lourd véhicule. Quant à la nourriture des animaux, c'était l'approvisionnement fourni par les indigènes qui avaient pourvu depuis le départ de Kotelny jusqu'à l'arrivée sur la baie de l'Alena. Désormais, avec la mousse qu'ils savent déterrer sous la neige, avec les feuilles des arbrisseaux dont le sol sibérien est semé, les rennes pourvoiraient d'eux-mêmes à leur propre alimentation. Il faut reconnaître aussi que, pendant cette traversée de l'Icefield, le nouvel attelage s'était montré fort docile et Kloudjirofle n'avait eu aucune peine à le diriger. La nourriture des voyageurs n'était pas moins assurée par le stock de conserves, farine, graisse, riz, thé, biscuits, eau-de-vie que possédait encore la belle roulotte. Cornelia disposait en outre d'une certaine quantité de beurre yakout emballé dans de petites caisses de bouleau qui avaient été offertes par l'ami Chouchou à l'ami Cascabel. Il y aurait lieu cependant de renouveler la provision de pétrole dès qu'on pourrait le faire dans quelques bourgades sibériennes. La chasse, d'ailleurs, ne tarderait pas à procurer de la venaison fraîche, et, chemin faisant, M. Serge et Jean auraient maintes fois l'occasion d'utiliser leur adresse au profit de la cuisine. On devait compter également sur le concours des deux matelots russes. Ils affirmaient que la région septentrionale de la Sibérie leur était en partie connue, et, semblait-il, il n'y aurait qu'avantage à les prendre pour guides. Ceci fut l'objet de la conversation qui, ce jour-là, se tint au campement. « Puisque vous avez déjà parcouru cette contrée, » dit M. Serge en s'adressant à Ortik, « c'est vous qui nous dirigerez. »« C'est bien le moins, » répondit Ortik, « puisque nous avons été délivrés grâce à M. Cascabel. »«
Grâce à moi ?
Non point, » répondit M. Cascabel. Mais grâce à mon ventre auquel la nature a donné le don de la parole. C'est à lui qu'il faut adresser vos remerciements. Ortik, demanda M. Serge, quel itinéraire conseillez-vous de suivre en quittant la baie de l'Alena?
Le plus court, si vous le voulez bien, M. Serge. S'il a l'inconvénient de laisser à l'écart les principales villes des districts, situées plus au sud, il nous permettra de marcher directement sur la chaîne de l'Oural. D'ailleurs, il ne manque pas de villages sur la route, où vous pourrez vous ravitailler et même séjourner si cela est nécessaire.
« À quoi bon ?» répondit M. Cascabel en interrompant Ortik. « Nous n'avons que faire dans un village. Ce qui importe, c'est de ne point s'attarder et d'allonger le pas. Je ne pense pas que le pays soit dangereux à traverser. »
En aucune façon, répondit Ortic. Et puis nous sommes en force, et malheur au coquin qui voudrait s'attaquer à notre belle roulotte. Il ne s'en tirerait pas à bon compte.
Soyez tranquille, monsieur Cascabel, il n'y a rien à craindre, répondit Kirchef.
On l'a remarqué, ce Kirchef ne parlait que très rarement. Peu sociable, d'humeur sombre et taciturne, il laissait son camarade prendre part aux conversations.
Ortic était évidemment plus intelligent que lui, et même d'une intelligence réelle, ce que M. Serge avait été plusieurs fois en mesure de constater. En somme, l'itinéraire que proposait Ortic était de nature à satisfaire. Tourner les villes importantes où l'on se serait exposé à rencontrer des postes militaires, c'était ce qui devait convenir au comte Narkin, en même temps que cela convenait aux deux prétendus matelots. Qu'il dût être difficile d'éviter les centres populeux, surtout aux approches de la frontière, cela était à prévoir, et il y aurait alors lieu de prendre certaines précautions. Jusque-là, les villages de la steppe n'offriraient que peu de dangers sous ce rapport. Ce plan de voyage, une fois adopté en principe, il n'y eut plus qu'à reconnaître les diverses provinces qu'il faudrait couper obliquement entre le cours de la Léna et l'Oural. Jean chercha donc dans son atlas la carte de la Sibérie septentrionale. M. Serge fit alors une étude approfondie de ces territoires où les fleuves sibériens, au lieu de favoriser les itinéraires qui se dirigent de l'est à l'ouest, leur opposent plutôt de sérieux obstacles. Et voici ce qui fut arrêté. Traverser le pays des Yakouts, où les villages sont clairsemés, en se dirigeant vers le sud-ouest. Passer ainsi du bassin de la Léna au bassin de l'Anabara, puis à celui de la Katanga, puis à celui de l'Ienisei, puis à celui de l'Obi, ce qui se chiffrait par un parcours de 750 lieues environ. Franchir le bassin de l'Obi jusqu'aux montagnes de l'Oural, qui forment la frontière de la Russie d'Europe, sur un trajet de 125 lieues. Enfin, de l'Oural à Perm, cheminer pendant une centaine de lieues vers le sud-ouest. Au total, 1000 lieues en chiffreront. S'il ne se présentait aucun retard sur la route, s'il n'y avait pas nécessité de s'arrêter dans quelques bourgades, le voyage pouvait être accompli en moins de 4 mois. En effet, de 7 à 8 lieues par jour, ce n'était pas trop demander à l'attelage de Rennes, et dans ces conditions, la belle roulotte arriverait à Perm, ensuite à Nijni, au milieu de juillet, c'est-à-dire à l'époque où la célèbre foire serait dans tout son éclat. « Nous accompagnerez-vous jusqu'à Perm ?» demanda M. Serge à Ortic.
« Ce n'est pas probable, » répondit le marin. « Après avoir passé la frontière, notre projet est de faire route sur Pétersbourg pour gagner Riga. »«
Soit, » dit M. Cascabel, « mais commençons par arriver à la frontière. »
Il avait été convenu que la halte durerait 24 heures, dès qu'on aurait mis pied sur le continent. Halte bien justifiée après ce rapide passage de l'Icefield. Ce jour-là fut donc donné au repos. La Léna se jette dans le golfe de ce nom à travers un capricieux réseau d'embouchures que séparent une infinité de canaux et de passes. C'est après un parcours de 1500 lieues que ce beau fleuve, accru d'un grand nombre de tributaires, vient se perdre dans les profondeurs de la mer Arctique. Son bassin n'est pas estimé moins de 105 millions d'hectares. La carte ayant été mûrement examinée, M. Serge pensa qu'il conviendrait tout d'abord de suivre les contours de la baie, de manière à éviter les bouches multiples de la Léna. Bien que ses eaux fussent encore glacées, il eût été très pénible de s'aventurer au milieu de ce dédale. L'embâcle accumulé par l'hiver y formait un monstrueux encombrement de blocs, dominé par de véritables icebergs d'aspect très pittoresque mais difficiles à tourner. Au-delà de la baie, c'était le commencement de l'immense steppe, à peine accidentée de quelques dunes et sur lequel le voyage s'effectuerait aisément. Évidemment, Ortic et Kirchef étaient habitués à voyager sous ces hautes latitudes. Leurs compagnons avaient déjà pu l'observer pendant la traversée de l'Icefield depuis l'archipel d'Eliakov jusqu'à la côte de la Sibérie. Les deux marins savaient organiser un campement, construire au besoin quelques solides huttes de glace. Ils connaissaient le moyen employé par les pêcheurs du littoral, qui consiste à faire absorber l'humidité contenue dans les vêtements en les enfouissant sous la neige. Ils n'hésitaient pas lorsqu'il s'agissait de distinguer les blocs produits par la congélation de l'eau salée
des blocs dus à la congélation de l'eau douce. Enfin, ils étaient au courant des divers procédés de marche, familiers aux voyageurs des contrées arctiques. Du reste, ce soir-là, après le souper, la conversation porta sur la géographie de la Sibérie septentrionale, et Ortik fut amené à dire en quelles conditions Kirchev et lui avaient parcouru cette contrée. Lorsque M. Serge lui eut demandé « Comment se fait-il que, vous autres marins, vous ayez eu l'occasion de visiter ces territoires ?»« Monsieur Serge, répondit-il, il y a 2 ans, Kirchev, une dizaine de matelots et moi, nous étions au port d'Arkhangel, attendant un embarquement à bord des baleiniers, lorsque nous avons été requis pour le sauvetage d'un navire qui était en détresse au milieu des glaces dans le nord de l'embouchure de la Léna. Eh bien, c'est en allant d'Arkhangel à cette baie que nous avons suivi la côte septentrionale de la Sibérie. Quand nous avons eu rejoint le Vremia, nous sommes parvenus à le renflouer, et c'est sur ce bâtiment que nous avons fait la pêche. Mais comme je vous l'ai dit, il a péri pendant cette campagne avec son équipage, auquel nous avons seuls survécu, mon compagnon et moi. Et alors la tempête a poussé notre embarcation sur l'archipel d'Eliakov, où vous nous avez trouvés. « Et vous n'avez jamais voyagé dans les provinces de l'Alaska ?» demanda Cayette, qui, on le sait, parlait et comprenait le russe. « L'Alaska ? » répondit Ortik. « Est-ce que ce n'est pas en Amérique, ce pays-là ? » « Oui, » dit M. Serge. « C'est un pays situé dans le nord-ouest du nouveau continent, le pays de Cayette. Est-ce que vos campagnes de pêche vous ont poussé jusque-là ?»«
Nous ne connaissons pas ce pays, » répondit Ortik d'un ton très naturel.
« Et nous n'avons jamais dépassé le détroit de Bering, » ajouta Kirchev. La voix de cet homme fit encore sur la jeune indienne son effet accoutumé, sans qu'elle parvînt à se rappeler où elle l'avait pu entendre. Pourtant, ce ne pouvait être que dans les provinces alaskiennes, puisqu'elle ne les avait jamais quittées. Aussi, après la réponse si explicite d'Ortik et de Kirchev, Cayette, avec la réserve habituelle à sa race, ne chercha-t-elle pas à poser de nouvelles questions? Néanmoins, une prévention lui restait dans l'esprit, et même une défiance instinctive envers les 2 matelots. Pendant ces 24 heures de halte, les rennes avaient pu prendre tout le repos qui leur était nécessaire. Bien qu'ils eussent les pieds de devant entravés de cordes, cela ne les empêchait pas de vaguer autour du campement, où ils broutaient les arbustes, déterraient les mousses enfouies sous la neige. Le 20 mars, la petite caravane partit à 8 heures du matin. Temps sec et clair avec vent chassant du nord-est. À perte de vue, la steppe toute blanche et suffisamment durcie encore pour que le véhicule pût y rouler facilement. Les rennes étaient attelées 4 par 4 au moyen d'un système de traits bien combinés. Ils s'avançaient ainsi sur 5 rangs guidés d'un côté par Ortik, de l'autre par Clou de Girofle. On voyagea ainsi pendant 6 jours. Sans avoir fait aucune rencontre qui mérite d'être mentionnée. Le plus souvent, messieurs Serge et Cascabel, Jean et Cendre, allaient à pied jusqu'à la halte du soir, et quelquefois, Cornelia, Napoléon et Cayette les accompagnaient lorsqu'elles n'avaient pas à s'occuper du ménage. Chaque matinée, la belle roulotte faisait environ 1 cause, mesure sibérienne qui vaut 20 verstes, soit 2,5 lieues environ. Pendant l'après-midi, elle en gagnait autant dans l'ouest, ce qui donnait 5 bonnes lieues pour la journée. Le 29 mars, après avoir franchi le petit fleuve Olenek sur la glace, M. Serge et ses compagnons atteignirent la bourgade de Maximova, à 42 lieues dans le sud-ouest du golfe de Léna. Il n'y avait aucun inconvénient à ce que M. Serge s'arrêtât 24 heures dans cette bourgade, perdue à l'extrémité de la steppe septentrionale. Là, point de capitaine-gouverneur, point de poste militaire occupé par des Cosaques, dès lors rien à craindre pour le comte Narkin. On était en plein pays des Yakouts, et la famille Cascabel reçut un excellent accueil chez les habitants de Maximova. Ce pays, montagneux et forestier dans les régions de l'Est et du Sud, n'offre sur sa partie nord que de vastes plaines rases, égayées çà et là de quelques massifs d'arbres, dont la saison chaude allait prochainement développer la verdure. Le produit de la fenaison y est extrêmement abondant. Cela tient à ce que, si l'hiver est très froid dans la Sibérie hyperboréenne, la température s'y montre excessive pendant les mois d'été. Là prospère une population de 100 000 Yakouts qui suivent les pratiques du rite russe. gens pieux, hospitaliers, de bonne mœurs, ils sont très reconnaissants des bienfaits qu'ils reçoivent de la Providence et très résignés lorsqu'elle les éprouve trop durement. Pendant ce trajet de la baie de la Léna à la Bourgade, on avait rencontré un certain nombre de Sibériens nomades. C'étaient des hommes solides, stature moyenne, visage plat, yeux noirs, épaisse chevelure, figure imberbe. Les mêmes types se retrouvent à Maximova, dont les habitants sont sociables, pacifiques, intelligents, laborieux et ne se laissent pas duper facilement. Ceux de ces Yakouts qui mènent la vie errante, toujours à cheval et toujours armés, sont propriétaires des nombreux troupeaux répandus à travers la steppe. Ceux qui vivent sédentairement dans les villages ou les bourgades s'adonnent plus particulièrement à la pêche, en exploitant les eaux poissonneuses des 1000 cours d'eau que le grand fleuve absorbe à son passage. Néanmoins, si ces Yakouts sont doués de toutes les vertus publiques et privées, il faut reconnaître qu'ils abusent trop volontiers du tabac et, ce qui est plus grave, du brandevin et autres liqueurs alcooliques. Ils sont pourtant excusables dans une certaine mesure, fit observer Jean. Pendant 3 mois, ils n'ont que de l'eau à boire et de l'écorce de pain à manger. Ne voulez-vous pas dire de la croûte de pain, monsieur Jean ? Demanda Clou de Girofle. Non, de l'écorce de pain. Aussi, après de telles privations, un peu d'excès est-il pardonnable ? Tandis que les nomades habitent des yourtes, sortes de tentes de forme conique en étoffe blanche, les sédentaires occupent des maisons de bois, bâties au goût et à la convenance de chacun. Ces maisons soigneusement tenues sont coiffées de toits très raides, dont la pente favorise la fusion des neiges sous les rayons du soleil d'avril. Aussi cette bourgade de Maximova présente-t-elle un riant aspect. Les hommes sont d'un type agréable, l'air franc, le regard clair, la physionomie empreinte de quelque fierté. Les femmes paraissent gracieuses et assez jolies, quoique tatouées au visage. Très réservées, très sévères sous le rapport des mœurs, elles ne se laissent jamais voir ni pieds nus ni tête nue. La famille fut très cordialement accueillie par les chefs Yakouts, qui sont compris sous la désignation de Kinos, et par les anciens, les Starzinas, c'est-à-dire les notables du pays. Ces braves gens se disputèrent l'honneur de l'héberger et de la nourrir à leurs frais. Mais après les avoir remerciés, Cornelia ne voulut faire d'acquisition qu'en payant, entre autres, une provision de pétrole qui devait assurer pour quelque temps l'alimentation du fourneau de cuisine. D'ailleurs, comme toujours, la belle roulotte avait produit son effet. Jamais une voiture de saltimbanque ne s'était présentée en ce pays. Nombre de Yakouts des deux sexes lui rendirent visite, et il n'y eut point lieu de s'en repentir. En cette province, il est rare qu'un vol soit commis, même au détriment des étrangers, et si cela arrive, la punition suit immédiatement la faute. Lorsque le crime a été reconnu, le voleur est battu de verge publiquement. Puis, après le châtiment physique, le châtiment moral. Flétri pour toute son existence, il est privé de ses droits civiques et ne peut plus recouvrer le nom d'honnête homme. Le 3 avril, les voyageurs arrivèrent sur les bords de l'Oden, petite rivière qui se jette dans le golfe d'Anabara après un cours de 50 lieues. Le temps, très favorable jusqu'alors, commença à subir quelques modifications. Bientôt survinrent des pluies abondantes, dont le premier effet fut de provoquer la fonte des neiges. Cela dura 8 jours, pendant lesquels la voiture eut à se tirer des embourbements, et même de certains enlisements très dangereux lorsqu'elle traversait des surfaces marécageuses. Ainsi s'annonçait le printemps de ces hautes latitudes, avec une moyenne de température qui se tenait à 2 ou 3 degrés au-dessus de zéro. Ce trajet occasionna de grandes fatigues. Mais il n'eut qu'à se féliciter du concours des 2 matelots russes, qui se montrèrent très dévoués et très serviables. Le 8 avril, la belle roulotte vint s'arrêter sur la rive droite du fleuve Anabara, après avoir franchi 40 lieues depuis Maximova. Il était encore temps de passer ce cours d'eau sur la glace, bien que la débâcle commençât déjà à se produire en aval. On entendait le fracas des blocs, que le courant entraînait bruyamment vers le golfe. Une semaine plus tard, il eût fallu trouver quelque gué praticable, ce qui n'aurait pas été facile car les crues se manifestent rapidement avec la fusion des neiges. Déjà la steppe, redevenue verdoyante, se tapissait d'une herbe nouvelle, qui plaisait à l'attelage. Les arbrisseaux bourgeonnaient. Avant 3 semaines, les premières feuilles auraient fait éclater les boutons de leurs branches. La vie végétale ranimait aussi le maigre squelette des arbres, réduits à l'état de bois sec par les froids de l'hiver. Çà et là, quelques groupes de bouleaux et de mélèzes se pliaient avec plus de souplesse au souffle de la brise. Toute cette nature hyperboréenne se revivifiait à la chaleur du soleil. Les provinces de la Sibérie asiatique sont d'autant moins désertes qu'elles s'éloignent du littoral. Parfois, la petite troupe rencontrait un percepteur qui s'en allait réclamer le tribut de village en village. On s'arrêtait alors, on échangeait quelques paroles avec ce fonctionnaire ambulant, on lui offrait un verre de vodka qu'il acceptait volontiers. Puis on se séparait avec des souhaits de bon voyage. Un certain jour, la belle roulotte fut croisée par un convoi de prisonniers. Ces malheureux, condamnés à faire bouillir le sel, étaient conduits jusqu'aux limites orientales de la Sibérie, et la troupe de Cosaques qui les escortait ne leur ménageait guère les mauvais traitements. Il va sans dire que la présence de M. Serge ne donna lieu à aucune observation de la part du chef de l'escorte. Mais Cayette, toujours en méfiance vis-à-vis des matelots russes, crut remarquer qu'ils cherchèrent à ne point attirer sur eux l'attention des Cosaques. Le 19 avril, après un parcours de 75 lieues, la belle roulotte vint faire halte sur la rive droite de la Katanga, qui se jette dans le golfe du même nom. Plus de pont de glace, cette fois, qui put servir à se transporter sur l'autre bord. À peine quelques blocs en dérive marquant encore la fin de la débâcle. De là, nécessité de chercher un passage guéable, ce qui aurait sans doute causé un long retard, si Ortic n'en eût découvert un à une demi-verste, en amont. On ne le traversa pas sans difficulté, car la voiture y fut noyée jusqu'aux essieux. Puis, le fleuve franchi, 25 lieues au-delà, les voyageurs vinrent camper près du lac Yeg. Quel contraste avec l'aspect si monotone de la steppe! C'était comme une oasis au milieu des sables du Sahara. Que l'on s'imagine une nappe d'eau limpide circonscrite dans une ceinture d'arbres à feuilles persistantes, des pins et des sapins, des bouquets d'arbrisseaux, égayés de leur nouvelle verdure, érelles à baies pourpres, camarines noires, groseilliers rougeâtres, églantiers que le printemps couronnait de fleurs naissantes. Sous le couvert des fourrés assez épais, qui se massaient à l'est et à l'ouest du lac, wagram et marango ne seraient pas en peine de dépister quelques gibiers de poils ou de plumes, si M. Cascabel leur permettait d'y fureter pendant une couple d'heures. Et d'ailleurs, à la surface de ce lac, des oies, des canards, des cygnes nageaient par bandes nombreuses. Dans l'air passaient à tire-d'aile des couples de grues et de cigognes, au vol allongé, qui venaient des régions centrales de l'Asie. On eût volontiers battu des mains à cet attrayant spectacle. Sur la proposition de M. Serge, il fut décidé que l'on ferait une halte de 48 heures. Le campement fut disposé à la pointe du lac, sous l'abri de grands sapins, dont la cime débordait au-dessus des eaux. Puis les chasseurs de la troupe, suivis de wagram, prirent leurs fusils après avoir promis de ne pas trop s'éloigner. Il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que des détonations se faisaient entendre. Pendant ce temps, M. Cascabel et Cendre, Ortic et Kirchef, résolurent de tenter la fortune en pêchant sur les bords du lac. Leurs engins se réduisaient à quelques lignes munies d'hameçons qu'ils avaient achetées aux indigènes de Port Clarence. Et que faut-il de plus à des pêcheurs dignes de ce grand art lorsqu'ils ont assez d'intelligence pour lutter avec les ruses d'un poisson et assez de patience pour attendre qu'ils daignent mordre à leur appât? En réalité, cette dernière qualité eût été inutile ce jour-là. À peine les hameçons se furent-ils enfoncés par des fonds convenables que les flottes s'agitèrent à la surface des eaux. Les poissons étaient si abondants le long des rives qu'en une demi-journée on en put prendre de quoi faire maigre pendant tout un carême. C'était une joie pour le jeune Cendre. Aussi, lorsque Napoléon l'eut rejoint et lui demanda à tenir la ligne à son tour, il ne voulut point y consentir. De là, dispute et intervention de Cornelia. D'ailleurs, la pêche lui ayant paru suffisante, elle ordonna aux enfants comme aux pères de ramasser leurs engins, et lorsque Madame Cascabel ordonnait, il n'y avait plus qu'à obéir. 2 heures après, M. Serge et son ami Jean revenaient avec wagram. qui se faisait un peu tirer l'oreille, au vrai et au figuré, car il regrettait d'abandonner ses taillis giboyeux. Les chasseurs n'avaient pas été moins heureux que les pêcheurs. Aussi, pendant quelques jours, le menu des repas allait-il être non moins varié qu'agréable. Ce seraient les poissons du lac Yégueux qui en feraient les frais, et surtout l'excellent gibier particulier à ces territoires de la Haute-Sibérie. Entre autres, les chasseurs avaient rapporté un chapelet de ces caralis, qui se groupent en compagnie, et aussi quelques couples de ces dicoutas, volatiles stupides, plus petits que les gueulinottes de bois, et dont la chair est très savoureuse. On se figure aisément quel bon dîner fut servi ce jour-là. La table avait été mise sous les arbres, et aucun des convives ne s'aperçut qu'il faisait peut-être un peu froid pour festiner en plein air. Cornelia s'était surpassée dans la préparation des poissons grillés et du gibier rôti. Comme la réserve de farine avait été renouvelée au dernier village, ainsi que la provision de beurre yakout, qu'on ne s'étonne pas si le gâteau habituel, doré et croustillant, fit son apparition au dessert. Chacun but quelques bons coups de brandevin, grâce à certains flacons que les habitants de Maximova avaient consenti à vendre, et cette journée s'acheva sans que rien n'en eût troublé les heureux loisirs. C'était à croire vraiment que le temps des épreuves était passé, et que ce fameux voyage s'accomplirait à l'honneur et au profit de la famille Cascabel. Le lendemain, ce fut encore jour de repos, dont l'attelage profita pour se repaître consciencieusement. Le 21 avril, la belle roulotte repartit à 6 heures du matin, et 4 jours après, atteignait la limite occidentale du pays des Yakoutes.